retrouver toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bienvenue sur Radio Mézières, nous sommes dans Chronique Latine.
Je m'appelle Elena et je suis accompagnée de Zoé.
D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter des histoires romaines, donc avec Loïc et Yuan, qui vont nous parler des vols de Verrès.
Nous allons avoir Mathieu et Esteban.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vont nous parler des bacchanales.
Nous sommes aussi en compagnie de Nika et Loïc.
Bonjour, bonjour.
Qui vont nous présenter un roman latin, L'âne d'or.
Eh oui.
Nous avons aussi Marianne et Célia.
Bonjour.
Bonjour.
Qui vont nous raconter le conte de Cupidon et Psyché.
Et nous sommes aussi en compagnie de Cassiopée et Mona.
Bonjour.
Qui vont nous parler de notre comédie romaine du 21e siècle, Magia.
C'est parti.
Alors tout d'abord, on commence avec Loïc et Yuan.
Bonjour à nouveau, elle a mal prononcé mon prénom.
En effet, c'est Yuan. Voilà. Nous, comme nous l'avons indiqué, nous allons commencer par justement parler de Verrès. Verrès, justement, était propriétaire, c'est-à-dire qu'il était responsable d'une province. Et sa province était la Sicile, en Italie. Nous nous situons sous l'Empire, la République romaine, en moins 73 à moins 70. Pendant ce temps, Cicéron était questeur. C'est la première étape du cursus honorum. Il était réputé pour être honnête et bon orateur. Il se rendit compte qu'il manquait justement de l'argent, que l'argent avait disparu. Du coup, il mena une enquête pendant 50 jours auprès des citoyens pour avoir des informations sur Verrès. Il fut choqué par les réponses justement des citoyens, parce qu'apparemment Verrès les maltraitait, volait et les racketait.
Est-ce qu'on pourrait juste situer un petit peu le niveau actuel de Cicéron à ce moment-là, qui était un avocat, si on veut, un petit peu, avocat justement de la civilisation romaine, et qui a justement résolu beaucoup d'enquêtes très sérieuses, l'une des plus connues étant les Catilinaires, donc contre Catilina. Donc c'était très brièvement pour présenter Cicéron, qui, donc, comme mon cher collègue a présenté, a fait une enquête de 50 jours. Ensuite, il a tout rassemblé autour d'une sorte de livre, d'un discours grossièrement, se nommant les Vérines, qui se divise en 5 étapes.
Justement, les corruptions de Verrès à Rome.
Les corruptions de Verrès en Sicile.
Le détournement de blé.
L'écriture est mal faite, c'est quoi ?
La cruauté justement de Verrès, comme je l'ai pu l'indiquer, envers les citoyens.
Et ensuite, ce que nous allons voir aujourd'hui, Designis, les statues. Donc un vol de statues.
En effet, qui se tourne plutôt mal pour Verrès.
Ah, ça va être très drôle.
Nous allons lire justement une partie, juste parce que Designis est quand même assez grand, pour pouvoir vous présenter un peu le sujet. C'est justement des hommes de main de Verrès qui vont aller tenter de voler une statue d'Hercule dans le temple d'Hercule.
Il faut également savoir qu'en Sicile, il y avait beaucoup d'œuvres d'art. Tous les citoyens presque avaient une œuvre d'art chez eux pour l'exposer. Toutes les œuvres d'art venaient principalement de Grèce, etc., qui était le pays de l'art dans l'Antiquité, excusez-moi. Donc, je t'en prie.
Justement, nous allons lire une partie de Signis. C'est ainsi. On n'a rien de temps. On accourt de toute la ville en direction du temple. Depuis plus d'une heure, de très nombreux hommes entreprenaient de desceller la statue. Pendant tout ce temps, la statue ne glissait d'aucun côté. Alors que les uns tentaient, à l'aide de leviers placés sous la statue, de la déplacer, les autres de l'emporter vers eux de tous leurs membres au moyen de câbles.
Et soudain, les Agrigentins accourent. Donc c'était la ville où tout cela se passait. Donc les Agrigentins étaient les habitants. Donc ils accourent tous ensemble. Il se produit une grande lapidation. Les soldats nocturnes de cet illustre général prennent la fuite. Cependant, ils enlèvent deux statues, deux toutes petites,
revenir les mains totalement vides vers ce voleur d'objets religieux. Nous voyons donc justement que Cicéron se moque bien de Verrès en parlant justement d'un illustre général alors qu'il n'est qu'un voleur, et il met justement dans le texte latin une certaine subtilité, parce que justement il parle comme quoi il vole de toutes petites statues. En français, nous ne pouvons pas traduire cette subtilité. En effet, pergola signifie déjà très petite. Mais dans le texte, nous pouvons voir justement per parola, qui justement per est un préfixe qui intensifie l'idée. Du coup, c'est vraiment pour le ridiculiser, de montrer justement une toute petite statue comparée à l'envergure de la lapidation. Justement, magna lapidatio, qui signifie une très grande lapidation.
Pour replacer dans le contexte actuel, c'est tout simplement comme si jamais des braqueurs de banque venaient et ils revenaient avec une pièce de 5 centimes trouvée par terre. C'est quelque peu ridicule.
Oui.
Donc, nous avons terminé. Donc, nous avons laissé notre petite place à nos meilleurs amis du monde.
D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est Mathieu et Esteban qui, cette fois-ci, vont parler du scandale des Bacchanales. Donc, ce scandale qui a éclaté à Rome sous la République, c'était en -186. Les Bacchanales sont une fête interdite à Rome qui prennent forme sous une sorte de secte. Elles ont pour but la dévotion du dieu Bacchus, ou appelé Dionysos par les Romains, Bacchus en grec. Ce culte préconise auparavant de s'abstenir de toute relation charnelle pendant 10 jours, et après s'ensuit un cortège où un homme est entouré par des bacchantes, donc des femmes, et ces femmes, donc, avec un peu d'alcool, tout ça, donc, vont se dénuder et devenir folles, et aller déchiqueter des animaux dans les bois.
Tout en se couvrant de peaux de bêtes qu'elles ont au préalable déchirées. Ce sont des cérémonies très secrètes qui se passent souvent dans les bois et à l'écart de la civilisation.
Donc, l'extrait de l'affaire des Bacchanales, c'est un extrait qui nous est proposé par l'historien Tite Live, donc c'est un des plus grands historiens du monde romain. Il est connu pour Ars Urbe Condicia Libri. Dans cette affaire, on a un jeune homme qui a perdu son père, et sa mère et sa belle-mère, sa mère et son beau-père souhaiteraient faire en sorte qu'il soit déshérité. Et pour ce faire, ils vont faire croire à un consul que le jeune homme veut participer au bacchanal.
Donc, je vais donc vous lire un extrait de Tite Live Histoire romaine qui traite de ce scandale. Quand il rentra chez lui, sa mère lui demanda ce qu'il avait fait ce jour-là et ce qu'il ferait les jours suivants pour les cérémonies. Il lui répondit qu'il ne ferait rien et qu'il n'avait aucune intention d'être initié. Son beau-père assistait à cette conversation. Sa mère, immédiatement, lui dit qu'il ne pouvait se passer de coucher avec Ispala pendant 10 nuits et qu'il était intoxiqué par les charmes vénéneux de cette vipère et qu'il n'avait aucun respect ni pour sa mère, ni pour son beau-père, ni même pour les dieux. Tout en le grondant, sa mère d'un côté, son beau-père de l'autre, le mirent dehors avec 4 esclaves.
Donc, dans cet extrait en français, après je vais le lire en latin, on voit que le jeune homme est un peu pris au dépourvu. Il rentre sans la volonté de participer au bacchanal, et sa mère lui dit que c'est pas normal, qu'il devrait y aller, et que c'est un déshonneur, alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, je vais tenter de correctement le lire en latin. Alors, postquam donum venit et mater mentionem intulit, quid eo di, quid de inceps, ceteris, quae ad sacra pertinerent, faciedum, esset negat eorum. Se quicquam factorum nec initiari sibi in animo esse. Aderat sermoni vitricus. Confestim mulier exclamat ispalae concubitu carere eum decem noctes non posse. Ilius exetrae delementis et venemis ibuntum nec parentis nec victri nec deorum vere cun diam abere. Donc, dans le texte latin, il y a des mots qui sont assez transparents en français et qui se ressemblent un peu, comme concubitu, qui rappelle le fait qu'il ne peut pas coucher, enfin le terme coucher dans le verbe en français, noctes qui rappelle la nuit avec noctambule ou la nuit nocturne, et d'autres choses. Donc,
merci de nous avoir écoutés. Nous allons donc passer à la prochaine interview. Hein,
donc, passons de la réalité à la fiction. Donc, c'est avec Nitya et Loïc qui vont nous présenter un roman latin, donc L'Âne d'Or.
Bonjour. Alors, effectivement, nous allons présenter L'Âne d'Or, qui a été écrit par Apulée. Donc c'est l'histoire de Lucullus qui a entendu parler d'un pays, le pays des sorcières. Et donc la Thessalie, il va se diriger donc dans ce pays pour essayer de un peu découvrir ce qui s'y passe.
Voilà. Alors, pendant les aventures, ou plutôt mes aventures de Lucius en Thessalie, eh bien, il va faire la rencontre d'une sorcière et de sa servante. Sauf que Lucius va tomber éperdument amoureux de cette servante. Sauf que c'est une magicienne, sa maîtresse, et donc elle va lui jouer un mauvais tour.
Alors, pour apporter une petite précision, Lucius tombe amoureux de la sorcière, mais comme il a très peur de la sorcière, eh bien, il se dirige plutôt vers la servante, qui est une proie plus abordable pour lui. Donc, c'est un peu comme ça que se déroule l'histoire.
Ah, petit vénard. Alors, pour pouvoir voir en cachette cette servante, celle-ci lui propose de prendre une potion magique qui le transformerait en oiseau afin qu'il puisse passer par la fenêtre et faire des choses en toute discrétion.
Et donc, il prend cette potion. Et ce qui se passe, c'est que la potion, ce n'est pas ce que avait promis la servante. Et donc, il se transforme en âne.
Voilà, alors on a un petit récit de transformation. il se passe des choses. Mais, pauvre Lucullus. Alors, on apprend par la suite que le seul remède à sa transformation diabolique est de manger une rose. Donc, Lucius va partir à la recherche d'une rose dans les vastes plaines de Thessalie où il n'y a pas trop de fleurs. Donc, c'est plutôt quête difficile.
Vous comptez nous lire un petit extrait du roman ?
Oui, alors nous allons y venir. En fait, c'est un extrait en fait, qui est assez drôle, qui est assez comique. C'est en fait des brigands que va rencontrer Lucullus dans son périple. Et en fait, ces brigands vont l'utiliser à bon escient. Et donc, en fait, c'est un passage qui traite justement les brigands qui rentrent chez eux. Dans leur caverne, après une dure journée de labeur.
Voilà, donc c'est un texte qu'entend Lucius après sa capture par les brigands, que je vais vous lire. Alors, c'est dans cette caverne qu'ils se glissèrent un à un, en se faisant tout petits. Arrivés devant la porte, ils nous attachent avec de fortes courroies, puis les voilà qui apostrophent une vieille décrépitée, à ce qui semblait l'unique ménagère de cette bande de vauriens. Donc c'est la vieille femme qui s'occupe des brigands, et ils sont pas très gentils avec. « Alors quoi, toi, espèce de cadavre ambulant, tu nous dégoûtes de la vie, et même Hadès ne te veut pas. Tu crois que tu vas rester à la maison à t'amuser sans rien faire pour nous, et que tu ne vas pas fournir de soulagement à nos labeurs si difficiles et si périlleuses en nous restaurant aussi tard? Tu passes ton temps, jour et nuit, à ne rien avaler d'autre que du vin pur dans ton estomac déchaîné comme une gloutonne. » Voici ce que la vieille femme terrorisée répondit à cela en tremblant et d'une voix suraiguë. « Pour vous, mes jeunes protecteurs pleins de courage et de fidélité, j'ai préparé tous les ragoûts du monde en abondance, cuits à point avec saveur délicieuse, du pain à volonté et du vin versé à flot dans des coupes bien lustrées. Et comme d'habitude, j'ai préparé de l'eau chaude pour votre main. » À l'instant, après ces bonnes paroles, ils se dévêtissent aussitôt et une fois nus, se revigorent à la chaleur vaporeuse d'un grand feu, prennent un bain chaud, s'enduisent d'huile et s'assoient aux tables où des mets... petite interlude.
Est-ce qu'en attendant, nous pourrions souligner les qualités de lecteur de notre cher
ami? Ah oui, non, mais franchement, Loïc, t'as réussi à te mettre dans la peau de la vieille dame, c'était assez incroyable.
Bah merci.
Du coup, nous attendons un petit peu.
Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Quelqu'un qui a des qualités de lecture pareilles. Oui. Apparemment, pour reprendre le texte qu'on a traduit, c'est plus compliqué.
Voilà, des mets en abondance sur la table. C'est fini. Ah oui, c'était bien, effectivement, la fin. Donc, désolé pour l'attente.
D'accord. Bah,
on va passer à la suite. Merci.
Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons laisser la place à Marianne et Célia.
Oui, merci.
Qui vont nous conter le conte de Cupidon.
Voilà, alors c'est Vénus, qui est la mère de Cupidon, demande de faire en sorte que la Puella, c'est jeune fille en latin, se nommant Psyché, devienne malheureuse pour le restant de ses jours, puisque la jeune fille est très belle et les gens commencent à délaisser les temples d'Aphrodite. Alors Vénus dit à Cupidon: punis sévèrement cette jeune fille insolente pour sa beauté et accomplis, je t'en prie, cette seule et unique volonté, que cette jeune fille brûle d'un amour ardent pour le pire des hommes, un homme que la fortune est condamnée à la fois au déshonneur, à la pauvreté et à la santé si fragile que le monde entier, il ne se trouve personne qui égale son malheur.
Et donc après ces paroles, Cupidon veut donc lancer une flèche dans le cœur de Psyché. Sauf que finalement, ça se retourne contre lui et par un malheureux hasard, il tombe amoureux de Psyché et Psyché tombe amoureuse de lui. Et après quelques péripéties, ils sont enfin ensemble et elle devient une déesse dans l'Olympe. ce texte, il permettait de montrer une autre facette du dieu de l'amour, parce que souvent, on a l'impression qu'il est innocent, qu'il est comme un enfant, alors que là, on voit vraiment comme quelqu'un qui est contre la loi... qui n'en a rien à faire du mariage, par exemple. Et ça nous a permis d'avoir un vrai débat sur le sujet. On s'était demandé si c'était une bonne allégorie de l'amour ou pas.
Et qu'est-ce que vous en pensez ? Cupidon est une bonne allégorie de l'amour ?
Moi, je trouvais que comment il était décrit dans le texte, c'était quand même beaucoup trop négatif. Par exemple, il faisait que de dire qu'il était insolent, qu'il ne respectait rien. Et du coup, moi, je n'ai pas cette vision de l'amour. Et comme l'amour, c'est propre à chacun, bah moi, ça ne me correspondait pas. Donc, pour moi, pas du tout.
Moi, en général, je pense que Cupidon, c'est une bonne allégorie de l'amour. Enfin, peut-être pas dans ce texte-là, mais pour toute sa symbolique, je pense que oui, c'est une bonne allégorie de l'amour.
Cassiope et Mona, vous avez un mot sur Cupidon avant de commencer votre chronique ?
Pas vraiment, non.
Cassiope ?
Moi aussi, je suis plutôt d'accord avec Marianne et Célia. Je suis plutôt contre, en fait. Donc, comme nous a dit Zoé, nous allons vous présenter en exclusivité une petite partie de notre comédie latine que nous sommes en train de rédiger, qui s'intitule Magia.
Donc, Magia, c'est l'histoire d'un Sénex qui s'oppose au mariage de son fils avec une jeune fille, sous prétexte qu'elle est une prostituée. En réalité, le père est lui-même amoureux de la jeune fille et décide d'aller voir une magicienne pour que la jeune fille tombe amoureuse de lui. Juste après, le fils va lui-même voir la magicienne pour lui demander de fléchir son père. La magicienne doit donc choisir entre le père et le fils. Elle est attendrie par le fils, mais craint la colère du père s'il apprend qu'elle l'a manipulé, alors qu'il était venu lui-même acheter ses services avec le fils.
Merci beaucoup, Mona, pour cette intervention. Et maintenant, je vais vous présenter les personnages qui apparaissent récurremment, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi, dans les comédies latines. Non, romaine, excusez-moi. Alors, on peut retrouver le Servus Currens, qui est l'esclave rusé qui court un peu partout et qui, très souvent, est malin. Et on peut le comparer à Sganarel dans une pièce de Molière. Nous retrouvons aussi l'Adolescens, qui est le jeune amoureux, souvent amoureux d'une prostituée, donc qu'on peut retrouver dans notre pièce. Et il peut être aussi être comparé à Cléante dans L'Avare de Molière. Nous avons aussi la Métérix ou la Lupa, donc qui est la prostituée, pardon, souvent une jeune fille d'origine honnête, enlevée de son enfance et exploitée par le Léno, qui est le patron des prostituées. Il veut empêcher la prostituée de partir avec un jeune homme. Nous pouvons aussi retrouver la Puella que nous avons vue avec Marianne et Célia, qui est la jeune fille de bonne famille innocente et souvent amoureuse du jeune premier. Donc nous pouvons... la comparer à Marianne et Élise dans L'Avare de Molière. Nous retrouvons aussi le pater ou le sénex, donc le père du jeune premier, qui voudrait être souvent lui-même un jeune premier et épouser la jeune fille en question. Nous pouvons aussi retrouver le Miles Gloriosus, qui est le soldat fanfaron, donc chez une pièce de Corneille, Matamor. Et enfin, le Parasitus, qui est le pique-assiette, celui qui se fait tout le temps inviter chez les autres. Et puis voilà pour l'intervention de Mona et moi.
D'accord, merci. Donc, je pense qu'on peut clôturer cette chronique latine.
Effectivement.
Voilà, c'était très intéressant. Merci pour votre écoute.
Merci.
En tout cas, moi, ça m'a bien plu.
Ouais, et je pense qu'on tiendra un stand le 23 mars pour les portes ouvertes quand même.
Ah oui, venez au stand latin et il y aura peut-être à manger, c'est pas sûr.
Il y aura des bons gâteaux.
Bande de morphales.